Heureuse de cette invitation au service de l'unité des chrétiens, qui est aujourd'hui extrêmement nécessaire par les temps qui courent pour témoigner du Christ et pour témoigner de son royaume où les premiers, ce sont les plus petits, les plus faibles et les plus vulnérables. Alors, les deux questions à aborder ce soir le seront donc d'un point de vue catholique. Deux questions qui appartiennent à l'actuelle révision des lois de bioéthique de 2011, sachant que la première loi de bioéthique remonte à 1994 et qu'elle doit être révisée tous les 7 ans. Le programme pour ce soir est assez vaste et j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je dépasse un tout petit peu les 45 minutes imparties par le responsable du service de l'unité des chrétiens. Il se trouve que le 27 juin dernier, j'ai fait passer les examens oraux de théologie morale fondamentale aux séminaristes à qui j'ai donné, pendant toute l'année, 60 heures de cours de théologie morale fondamentale. Et l'un des séminaristes a passé un oral de théologie morale fondamentale, pour être gentille, un peu moyen, mais, il m'a fait spontanément une réflexion qui est la suivante. Avec ce cours de théologie morale fondamentale, je comprends beaucoup mieux ce qui est en jeu dans les débats autour de l'actuelle révision de la loi de bioéthique. Du coup, je lui ai mis 17 sur 20. En tous les cas, il avait bien compris que la bioéthique, puisque c'est de ça qu'il s'agit actuellement, la bioéthique est une morale sectorielle qui touche un secteur de l'activité humaine, comme la morale sociale, la morale politique, etc. Mais pour pouvoir réfléchir dans ce secteur, il faut avoir de bonnes bases en ce qu'on appelle morale générale ou morale fondamentale, qu'elle soit philosophique ou théologique. C'est pourquoi, après une introduction pour situer la bioéthique en général, il y aura 3 temps. Premier temps, Église catholique et bioéthique, fondements généraux, des positions de l'Église. Deuxième temps, PMA et GPA, de quoi parle-t-on? Et troisièmement, les fondements plus spécifiques des positions de l'Église catholique, avec le titre d'un petit livre qui est sorti il y a 3 semaines, de la Conférence des évêques de France, « Discerner des enjeux d'humanité ». Il se trouve que, donc, alors, à propos des livres qui sont sur la table de librairie, il y a donc aussi « Repères chrétiens en bioéthique », il y a « La dignité de la procréation » qui est aussi des évêques de France, et il y a un autre petit livre qui me paraît très bien fait, mais que je n'ai pas eu l'occasion de parcourir parce qu'il est des AFC, des associations familiales catholiques, et ma documentation, comme vous le verrez, elle est essentiellement celle des évêques, de la conférence des évêques de France. Alors, introduction pour situer la bioéthique. D'abord pour dire la place très importante de la bioéthique dans la société française, ce qui est dû à plusieurs éléments. Évidemment, les évolutions technoscientifiques médicales très rapides dans notre pays, les questions existentielles suscitées par ces évolutions technoscientifiques, c'est des questions de vie, des questions de mort, des questions de bonheur, et parce qu'il y a comme dénominateur commun, en arrière de tout ça, le dénominateur commun, ce sont les souffrances humaines. Tout cela, ces évolutions se font sur le fond qu'on pourrait appeler postmoderne d'évolution anthropologique majeure. D'où les questions, quelle société, quelle humanité voulons-nous? Je vous donne une définition classique et rapide de la bioéthique. Le but principal de la bioéthique, c'est de faire l'analyse rationnelle. Un travail de la raison, analyse rationnelle des problèmes moraux liés à la biomédecine et de leur lien avec les champs du droit et des sciences humaines. C'est la bioéthique est donc un domaine pluridisciplinaire. La réflexion permet d'élaborer des lignes éthiques fondées sur, pour faire large, les droits de l'homme dans le respect de toutes les confessions religieuses. Je voudrais aussi rappeler, loi française dite de bioéthique, que contrairement à ce que laisserait penser le titre de la loi française de bioéthique et son contenu actuel, le contenu de la loi française dite de bioéthique concerne essentiellement le début de la vie humaine. Je rappelle que la bioéthique concerne tous les domaines de la biomédecine. D'ailleurs, ce n'est pas une loi de bioéthique, c'est une loi de biomédecine. Donc la bioéthique au sens large comporte tous les domaines de la biomédecine. Il se trouve que la loi française concerne essentiellement le début de vie et qu'il y a en France une autre loi, qui s'appelle la loi Leonetti, puis la loi Claeys-Leonetti, qui concerne la fin de vie. Alors, première partie, comme annoncé, Église catholique et bioéthique, fondements généraux. Fondements généraux des prises de position de l'Église catholique. Alors, il est absolument indispensable de repérer un d'où vient cette bioéthique. Le mot de bioéthique est né aux États-Unis en 1970, mais le mot et la réalité qu'il représente ne sont pas tombés du ciel. On n'a pas attendu le XXe siècle pour réfléchir à l'éthique biomédicale. On peut déjà citer la très belle stèle que vous connaissez peut-être au musée du Louvre, qui est un extrait du code d'Hammurabi. Et déjà dans le code d'Hammurabi moins 1750, il y avait déjà des règles sur les pratiques médicales. Première réglementation, en particulier des honoraires médicaux. Autre document, bien évidemment, très important en bioéthique, c'est le serment d'Hippocrate, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et puis, au XXe siècle, l'essor de la bioéthique provient de faits très précis sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais je vais en mentionner un très important, qui est la participation à partir des années 1950, participation très importante de l'Église catholique à la réflexion en éthique biomédicale, grâce au travail et à la réflexion d'un certain nombre de théologiens catholiques nord-américains. Mais avec ces théologiens catholiques nord-américains, pour ceux à qui ça dit quelque chose, Richard McCormick, il y a également, à la même époque, dans les années 1950, des théologiens protestants qui ont beaucoup contribué à la naissance de la bioéthique. Et je cite ici Joseph Flechter et Gustafsson. Donc, l'Église catholique a beaucoup contribué à la naissance de la bioéthique par les théologiens, en particulier nord-américains. Et surtout, 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 il faut donner une place, toute sa place, aux nombreuses et excellentes prises de position du pape Pie XII. Le pape Pie XII est un pape absolument remarquable en ce qui concerne la bioéthique et pourtant pape réputé pour son dogmatisme. Il a eu des prises de position dynamiques, constructives, pleines d'espérance sur ces questions d'éthique. Je vous rappelle que le pape Pie XII prenait la parole dans les années 1950. Vous imaginez ce que pouvait être dans les années 1950 les transplantations d'organes. Il n'y en avait qu'une seule qui marchait, c'était la greffe de cornée. La réanimation, on venait dans les années 1950 d'inventer les respirateurs artificiels, etc. Or, il a eu des prises de position vraiment dynamiques, prophétiques même. Il a condamné l'acharnement thérapeutique, il a approuvé les greffes d'organes, il a dit tout ce qu'il fallait avec une extrême justesse sur le soulagement de la douleur. Malheureusement, en France, les médecins n'ont pas entendu les discours de Pie XII avant 25 ou 30 ans plus tard. Voilà, donc prise de position très importante du pape Pie XII. Autre élément très important dans les fondement de la réflexion de l'Église catholique en bioéthique, de l'Église catholique et pas seulement, c'est une très longue tradition des chrétiens au service des malades, les pratiques des chrétiens au service des malades. Avant la réflexion chrétienne, quelle qu'elle soit, protestante, catholique, orthodoxe, il y a d'abord les pratiques des chrétiens, les pratiques des chrétiens qui contribuent à la crédibilité de la réflexion bioéthique. Je reprends le jeu de mots d'un séminariste lors de son oral en bioéthique. Les chrétiens ont pensé avant de penser. Les chrétiens ont pensé avec un A avant de penser. Enfin, ont pensé avec un A avant de penser avec un E. C'est extrêmement juste. Donc, l'histoire du christianisme, alors toute confession confondue, et l'histoire des soins aux malades sont intimement liées depuis les origines chrétiennes. Bien sûr, les pratiques des chrétiens se sont appuyées sur les évangiles et en particulier Luc 10, la parabole du bon samaritain, et Matthieu 25, l'évocation du jugement dernier. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. C'est donc à partir des pratiques des chrétiens, de Luc 10 et de Matthieu 25, que l'Église a développé une réflexion d'éthique médicale, réflexion d'éthique médicale qui puise donc à deux sources, l'Évangile et le travail de la raison, puisque l'Évangile lui-même renvoie au travail de la raison en morale en général, et on voit ça très bien avec la parabole du bon samaritain, où il y a vraiment l'alliance du cœur et de la raison. Le bon samaritain a été pris de compassion, mais alors pris de compassion, ça l'a fait fonctionner sa raison. Il a dit, ben, pour sortir le blessé dans le fossé du mauvais pas où il est, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. Alors maintenant j'en viens, toujours dans ce grand premièrement, sur les fondements généraux. Quel est le rôle de l'Église catholique en éthique, et donc plus largement en bioéthique? Et d'abord, pourquoi l'Église catholique prend-elle la parole sur les questions de bioéthique? Parce qu'il est évident que l'Écriture sainte n'a pas grand-chose à nous dire sur ces questions de bioéthique. Je ne m'étends pas là-dessus, mais il n'y a pas, par exemple, comme on le dit trop souvent, ça a même été dit dans les groupes de réflexion des députés, il n'y a pas de GPA dans la Bible. On pourra éventuellement en reparler. Agar n'est pas la mère porteuse du couple Abraham-Sarah, hein, contrairement à ce que certains fondamentalistes font dire à la Bible. Donc, il n'y a pas de réponse dans l'Écriture pour nos questions bioéthiques du XXIe siècle. Et en plus, l'exigence éthique est une exigence rationnelle, universelle, et on n'a pas besoin d'être croyant pour être moral. Mais il se trouve que chaque fois que l'homme, image de Dieu, est atteint ou risque d'être atteint dans sa dignité, le magistère intervient. Donc le magistère de l'Église catholique est déjà intervenu au XIXe siècle pour la question sociale de l'époque qui était la question ouvrière, pape Léon XIII, et le magistère de l'Église catholique intervient aujourd'hui en bioéthique qui est considérée comme l'actuelle question sociale. Alors, que dit... Voilà, donc je viens de vous dire pourquoi l'Église prend la parole. Que dit l'Église catholique en morale? Alors, entre parenthèses, TMF, théologie morale fondamentale. Alors, en général, voilà comment nous pensons. Le rôle de l'Église catholique en morale, ça se réduit au rôle du magistère, c'est-à-dire le pape et les évêques, dans leur fonction d'enseignement, et le rôle du magistère se réduit à nous donner des normes morales à appliquer de manière déductive en permis défendu. Alors, ça n'est pas tout à fait ça. D'abord, ce que nous dit l'Église catholique en morale, c'est premièrement que la visée de la morale, c'est le bonheur. L'Église catholique n'a rien inventé. Aristote, moins 4e siècle avant Jésus-Christ, le disait. Cela a été repris par les évangiles, puisqu'au cœur des évangiles, il y a les béatitudes, heureux, avec une liste de vertus, et cela cette morale du bonheur sera reprise et développée par le théologien, un des théologiens majeurs de l'Église catholique, saint Thomas d'Aquin. Donc, la visée de la morale, c'est le bonheur, qu'on détaille en disant qu'il s'agit de la construction de soi selon son option, selon une option fondamentale. Construction de soi, ce n'est pas du tout de l'individualisme, hein, construction de soi en harmonie avec soi-même, avec les autres, avec le cosmos, avec Dieu. Et donc, l'option fondamentale pour le chrétien, c'est de suivre le Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie morale chrétienne sans vie théologale. C'est la première chose que nous dit l'Église catholique en morale, hein. Que la vie morale du chrétien, c'est de suivre le Christ, et qu'il n'y a pas de vie morale chrétienne sans vie théologale, c'est-à-dire sans vie de communion avec Dieu, Trinité, dans la foi, l'espérance et l'amour. Ce qui fait qu'il n'y a qu'une seule loi morale spécifiquement chrétienne, une seule loi morale spécifiquement chrétienne, qui est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Aimez-vous les uns les autres, ça, c'est pas chrétien. Au sens, c'est pas spécifiquement chrétien. Aimez-vous les uns les autres. Ce qui est spécifiquement chrétien, c'est le « comme je vous ai aimé », c'est-à-dire en communion avec le Christ, donc dans cette vie théologale. Vraiment, la spécificité chrétienne de la morale, elle est essentiellement dans le « comme Jésus ». Le deuxième point très important que donne l'Église en morale, donc en théologie morale fondamentale, c'est l'obligation absolument incontournable, alors là c'est une loi incontournable, qui est l'obligation de toujours suivre sa conscience. Évidemment, une conscience morale formée, éclairée, etc. Alors ça, c'est pas seulement de la morale chrétienne, ni catho, c'est de la morale tout court. L'Église catholique insiste beaucoup sur cette obéissance obligatoire à la conscience morale, conscience éclairée, informée, etc. La conscience morale de tout homme est habitée par cette loi morale fondamentale qui est « fais le bien, évite le mal ». Donc je mets sur la diapositive Gaudium et Spes, donc la constitution pastorale du Concile Vatican II, où il est le plus question de morale, Gaudium et Spes 16 sur la valeur de la conscience, et Gaudium et Spes 50 qui est la façon de faire un discernement moral. Compte tenu de l'importance de la conscience, l'importance de suivre sa conscience en morale, il faut souligner ce paragraphe très important de l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique numéro 375, à savoir par cœur. La charité passe toujours par le respect du prochain et de sa conscience, même si cela ne signifie pas accepter comme un bien ce qui est objectivement un mal. C'est extrêmement important, hein, quand on accompagne des personnes en particulier, et on voit bien qu'il y a la distinction entre la personne et sa conscience, d'un côté, et les actes qu'elle pose. Et il n'y a pas personne ne se réduit à ses actes. La personne ne se réduit pas à ses actes. Et puis, troisième point important de ce que nous dit le magistère de l'Église catholique, c'est que le magistère ne nous dit jamais ce que nous avons à faire dans telle ou telle situation concrète, mais il éclaire les consciences en rappelant les grands principes moraux et universels et les normes morales plus concrètes. Les lois morales n'ont strictement rien de spécifiquement chrétien. Je veux dire qu'il n'y a pas de valeur morale chrétienne. Donc, le magistère de l'Église catholique nous rappelle, c'est un rappel, les grands principes moraux universels, donc fais le bien, évite le mal, respecter la vie, les interdits fondateurs, la règle d'or, l'amour du prochain, le respect de la dignité humaine. Mais il est évident que le seul rappel des grands principes ne nous servirait pas à grand-chose quand nous sommes confrontés à des décisions, aux conditions bien concrètes de l'existence aujourd'hui. C'est bien gentil de nous dire fais le bien, évite le mal. Alors, ça veut dire quoi dans une GPA? Fais le bien, évite le mal. Je fais quoi avec ça? Où aimez-vous les uns les autres? Je fais une GPA ou j'en fais pas? Donc, à partir des grands principes moraux universels, il y a tout un travail, une réflexion du magistère de l'Église catholique pour élaborer des normes morales plus concrètes pour le respect de la dignité humaine dans les différents contextes socioculturels. Par exemple, l'interdit de l'eugénisme, puisque tous les humains sont égaux en dignité. Le respect de l'embryon humain dès sa conception. Vous imaginez que pour dire parler de l'interdit de la, enfin, pour parler du respect de l'embryon humain dès sa conception et de l'interdit des recherches destructrices sur les embryons humains, ben, il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour avoir des embryons in vitro. On n'avait pas besoin de formuler cette norme morale concrète auparavant, même s'il y avait le respect de la vie auparavant. Et puis, évidemment, aujourd'hui, le magistère catholique insiste un petit peu plus sur le respect de la différence sexuelle pour procréer. Respect de la différence sexuelle pour procréer, qui est une façon de décliner le respect de la dignité humaine. Surtout, point extrêmement important à retenir, il y a du relief dans l'enseignement du magistère. Tout n'est pas à mettre sur un même pied d'égalité. Tous les documents n'ont pas le même poids et à l'intérieur d'un document, toutes les affirmations n'ont pas le même poids. Alors on trouve ça évidemment dans le Concile Vatican II repris par le pape François. Je veux surtout souligner dans ce relief des lois morales rappelées par le magistère de l'Église catholique, le degré le plus important est évidemment l'enseignement prononcé de façon infaillible, l'enseignement de poids maximal. Et en morale, il faut attendre 1995 avec l'encyclique L'Évangile de la vie pour que, pour la première fois, il y ait des interdits moraux proclamés de façon infaillible, relevant du magistère infaillible de l'Église catholique. Alors, il n'y a strictement rien de nouveau. Il s'agit de l'interdit du meurtre. Quand on lit l'encyclique L'Évangile de la vie, on voit bien qu'il y a trois pics, avec trois formulations très solennelles, l'interdit du meurtre, l'interdit de l'avortement et l'interdit de l'euthanasie. En fait, il s'agit d'un seul interdit, l'interdit du meurtre, décliné en interdit de l'avortement et de l'euthanasie. Je vous donne la formulation solennelle dans l'encyclique L'Évangile de la vie. De l'interdit du meurtre prononcé de façon infaillible, donc vous voyez c'est très solennel, avec l'autorité conférée par le Christ à Pierre et à ses successeurs, en communion avec tous les évêques de l'Église catholique. La formule veut dire en communion avec tous les évêques de l'Église catholique, ça veut dire à travers le temps et à travers l'espace. Hein, donc ce n'est pas simplement les évêques de 1995, c'est depuis les origines du christianisme. En communion avec tous les évêques de l'Église catholique, je confirme que tuer directement et volontairement un être humain innocent est toujours gravement immoral. Après, c'est très important. Cette doctrine, fondée sur la loi non écrite que tout homme découvre dans son cœur à la lumière de la raison, hein, ça ne tombe pas directement du ciel dans les cœurs des hommes, il y a un travail de la raison, c'est-à-dire en réfléchissant, les hommes se sont mis ensemble, ils ont réfléchi, ils ont dit oui, il n'y a pas de société possible s'il n'y a pas l'interdit du meurtre. Donc, que tout homme découvre dans son cœur à la lumière de la raison, est réaffirmé, l'Écriture sainte n'a rien inventé, réaffirmé par la Sainte Écriture, transmise par la tradition de l'Église de 1000 ans, mais enseignée par le magistère ordinaire et universel. Traditionnellement, dans l'Église, du travail de la réflexion morale à la lumière de la raison, c'est se référer à un gros mot que je vais dire, parce que de temps en temps vous l'entendez, mais il n'est surtout pas à employer dans le débat public, le travail de la raison en morale, c'est la loi naturelle. La loi naturelle n'est pas la loi biologique, la loi naturelle n'est pas la loi de la jungle. La loi naturelle, c'est le travail de la raison en morale. À partir d'un certain nombre d'invariants, enfin, à partir d'un certain nombre de dynamismes naturels existants en tout homme. La loi naturelle n'a rien de spécifiquement catho et n'a rien de spécifiquement chrétien. La loi naturelle, c'est une notion philosophique qui remonte au stoïcisme, donc 3e, 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc la loi naturelle, c'est le travail de la raison en morale à partir d'un certain nombre de dynamismes que l'on retrouve en tout homme. Ces dynamismes, je les ai formulés de cette façon-là, ils ont été très bien formulés à l'origine par le stoïcisme et repris par Thomas d'Aquin. Conserver sa vie, être l'artisan de sa construction, donc avec ça tout le reste, tout ce qui concerne le respect de la vie, procréer et éduquer des enfants, vivre en société, la dimension intrinsèquement relationnelle de tout être humain, rechercher la vérité sur Dieu, ce qu'on appelle la grammaire de base de l'existence humaine. Ce travail de la raison en morale est très bien présenté par mon évêque, je suis du diocèse de Nanterre, mon évêque Mathieu Rouget. Alors, évêque de Nanterre est entre parenthèses, parce que quand il a écrit ce livre-là, il n'était pas encore évêque. Voilà ce qu'il écrit dans ce livre intitulé « L'Église n'a pas dit son dernier mot ». Il insiste vraiment sur le travail de la raison en morale. Si les catholiques s'opposent à l'euthanasie ou à la gestation pour autrui, s'ils affirment que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, s'ils sont particulièrement sensibles au traitement des migrants, ce n'est pas pour des motifs d'abord confessionnels, religieux, mais bien en vertu d'un diagnostic rationnel. Ce qui est en cause sur ces sujets comme sur, ce qui est en cause sur ces sujets comme sur tant d'autres, c'est le respect inconditionnel de la dignité de toute personne humaine en dehors duquel aucune société ne peut se construire sans faire le lit de la violence. Les catholiques sont parfois tentés par la confessionnalisation des sujets politiques, restauration chrétienne, etc. Ils doivent sans cesse se rappeler que leur foi elle-même les invite à donner toute sa place au travail médiateur de la raison, fondateur de l'espace éthique de la démocratie et du vivre ensemble. Mais certains laïcistes dénieront aux catholiques, comme aux autres croyants en général, la possibilité de tenir un discours authentiquement rationnel. La mise en forme rationnelle de leur discours ne constituerait en réalité que le faux-nez de leur prosélytisme politique. Il faut répondre que les catholiques sont rarement les seuls à défendre une éthique à leurs yeux ambitieuse. Face aux slogans ou aux injonctions que les médias véhiculent parfois, l'Église n'est pas l'adversaire mais l'avocate de la raison, invitant à temps et à contre-temps à faire un usage rigoureux et persévérant de la raison. Et pour illustrer le fait qu'il n'y a pas que les cathos qui tiennent une telle éthique, il y a tout un paragraphe sur la philosophe Sylviane Agacinski que M. Bonneau a cité en introduction. Sylviane Agacinski n'a strictement rien de catho, tout ce qu'elle écrit peut être signé par les cathos. Voilà, ceci me permet d'en arriver à PMA et GPA, de quoi s'agit-il? Alors, PMA. D'abord, petite précision terminologique. On parle de PMA, mais on parle également d'AMP. Certains font la distinction entre les deux, d'autres ne la font pas. Il y a un intérêt à faire une distinction entre les deux. Il ne s'agit pas, dans les deux cas, de la même posture existentielle. Dans l'AMP, assistance médicale à la procréation, on demande un service à la médecine comme réponse médicale à un problème médical. Donc, et on met l'accent sur assistance médicale à la procréation. Dans la procréation médicalement assistée, PMA, qui est le terme actuellement employé, on est beaucoup plus du côté de l'exigence d'une procréation de la part de la médecine. Vous voyez, la nuance, elle serait dans l'AMP, c'est une assistance, une aide, et dans la PMA, c'est une exigence, un droit à. Alors, en ce qui concerne l'AMP classique, il faut préciser le cadre législatif actuel. Donc, la législation actuelle autorise le recours à l'AMP dans deux indications qui sont médicales. Ça, c'est capital. Je cite la loi. L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. Il y a également, puisque dans les techniques, certaines techniques d'assistance médicale à la procréation, les fécondations in vitro, il y a la création d'embryons surnuméraires qui peuvent être conservés, congelés, et donc il y a un certain nombre de dispositions législatives sur ces embryons. De plus, l'assistance médicale à la procréation, qui est donc d'indication médicale, s'adresse, et là je précise encore la loi, l'homme et la femme formant le couple, maintenant quand on parle d'un couple, il faut bien préciser, donc là c'est l'homme et la femme, l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants et en âge de procréer. L'âge de procréer pour la femme est fixé à 43 ans, puisque la Sécurité sociale rembourse jusqu'à 43 ans les tentatives d'assistance médicale à la procréation. Pour l'homme, le Conseil d'État vient de décider, il y a quelques mois, que la limite pour procréer d'un homme était de 59 ans. Il s'agit de tenir compte. Alors, on remarque quand même en positif, même si vous trouvez que c'est peut-être un peu âgé, on remarque en positif qu'il s'agit de tenir compte de l'intérêt de l'enfant et que quand l'enfant a 20 ans, le père a 79 ans. Quand l'enfant atteint la majorité, 18 ans, le père a 77 ans. Or, aujourd'hui, à 77 ans, on est encore presque jeune. Que dit l'Église catholique sur l'AMP classique? Donc, nous venons de voir la loi en vigueur, celle de 2011. Quels sont les repères donnés par l'Église catholique? Donc là, c'est tiré d'un document romain. En ce qui concerne le traitement de l'infertilité, les nouvelles technologies médicales doivent respecter trois valeurs fondamentales. Le droit à la vie et à l'intégrité physique de tout être humain depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Donc là, ça veut dire concrètement le respect de la vie des embryons humains. Deuxième point, l'unité du mariage qui implique le respect mutuel des conjoints à devenir père et mère seulement l'un par l'autre. Respect mutuel du droit des conjoints à devenir père et mère seulement l'un par l'autre, ça veut dire pas de don de gamètes extérieurs au couple, pas de don d'un donneur de spermatozoïdes, pas de don d'une donneuse d'ovocytes. Et la troisième règle à respecter, c'est que la procréation d'une personne humaine doit être poursuivie comme le fruit de l'acte conjugal spécifique de l'amour des époux. Ce qui est très important dans ces trois valeurs, donc premièrement le respect de la vie embryonnaire, deuxièmement un bébé dans son couple et troisièmement un bébé dans une relation sexuelle, c'est que ces trois valeurs sont données en ordre de gravité en allant du plus grave au moins grave. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a du relief dans l'enseignement du magistère. Là, il y en a. La valeur la plus importante étant évidemment le respect de la vie des embryons humains. La question actuelle, maintenant, c'est la question de l'ouverture. Enfin, la question actuelle, dans le cadre de notre conférence de ce soir, même si les jeux législatifs sont faits au moins pour cette question, c'est l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une demande sociétale et non pas d'une demande médicale, rien à voir avec les questions de biomédecine. Il s'agit d'une demande sociétale de procréer sans partenaire masculin. Par conséquent, au point de vue technique médical, c'est soit une insémination artificielle avec du sperme de donneur qui va être inséminé dans la femme, soit une fécondation in vitro, avec même ce qu'on appelle la fécondation in vitro réciproque. C'est-à-dire que dans un couple de femmes, il y a une femme qui va donner l'ovocyte. L'ovocyte in vitro va être mis avec le spermatozoïde d'un don de sperme anonyme. Et cet embryon fabriqué in vitro va être transféré dans l'utérus de l'autre femme du couple, celle qui n'a pas donné l'ovocyte. C'est ce qu'on appelle une FIV réciproque. Alors, quels sont les aspects éthiques et anthropologiques qu'on peut relever très rapidement sur cette question de cette situation de la PMA pour toutes les femmes? D'abord, c'est une institutionnalisation de l'absence de père. C'est une PMA sans père. Et surtout, c'est une absence planifiée de père, ce qui présente quand même une certaine violence. L'enfant n'aura pas de lignée paternelle, ce qui est considéré comme une injustice. Il y a un déni de la différence sexuelle et de la dualité masculin-féminin, c'est-à-dire un déni du réel. Cela est fait en dehors de toute infertilité pathologique, puisque pour un couple composé de deux personnes de même sexe, ce n'est pas du tout de la pathologie de ne pas pouvoir procréer. Pourquoi demander cela à la médecine? Cette demande est également faite dans une revendication d'égalité, parce qu'il y aurait une inégalité aujourd'hui dans l'accès à l'AMP, puisque ni les femmes seules, ni les femmes en couple de femmes, ni les femmes ménopausées n'y ont accès. Revendication également de liberté et d'autonomie, d'indépendance. Alors, autonomie absolutisée, sans contrainte, qui relève d'une anthropologie ultralibérale, avec un individualisme très fort. Et il s'agit de répondre à un désir d'enfant. Alors, on peut tout à fait comprendre la souffrance ressentie par des personnes qui ont une infécondité secondaire à des orientations sexuelles personnelles, et cette souffrance doit être prise en compte, mais comment et jusqu'où? Nous savons très bien que tout désir n'a pas vocation à être satisfait. Nous avons tous et toutes des frustrations. Donc, c'est une notion d'expérience très courante. Il faut également ajouter qu'il n'y a aucun droit à l'enfant et que toute existence humaine a sa part de limites et de souffrances. Et le problème est que l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, au couple de femmes et aux femmes seules, l'évolution sera inéluctable vers l'autorisation de la GPA. Ou gestation pour autrui. Alors, la GPA, de quoi s'agit-il sur le plan technique? Là encore, c'est une demande sociétale. La GPA implique qu'une tierce personne, une femme, appelée mère porteuse ou gestatrice, assume une grossesse en s'engageant à remettre l'enfant dès la naissance aux demandeurs que l'on appelle des parents d'intention. Alors, les demandeurs de GPA, ça peut être soit un couple normalement constitué d'un homme et d'une femme, la femme ne peut pas ou ne veut pas porter l'enfant, soit un couple homosexuel masculin, voire même un homme célibataire seul. Pour cela, il est nécessaire de pratiquer soit une insémination de la mère porteuse avec le sperme du père d'intention, avec une variante dans les couples composés de deux hommes qui est d'inséminer la dame avec le mélange des spermes de chacun des hommes. On touille les spermes et on insémine la dame. Et le sperme rencontrera l'ovocyte de la mère porteuse. Soit, ça peut être une fécondation in vitro avec la conception in vitro d'un embryon humain. Alors là, tous les profils peuvent se voir. On peut prendre les gamètes des parents d'intention ou l'un des parents sera donneur avec l'ovocyte de la mère porteuse. Voilà, tous les cas de figure peuvent se voir. Et l'embryon sera transféré dans l'utérus de la mère porteuse s'il y a eu l'ovocyte apporté par le couple demandeur. Évidemment, dans ce cas-là, ce n'est pas l'ovocyte de la mère porteuse. Alors évidemment, les questions qui vont se poser aussi, c'est sur la pénurie des dons de gamètes. L'argumentation est la même que pour la PMA pour toutes les femmes, revendication de liberté, revendication d'égalité pour répondre à, dans l'accès, pardon, revendication de liberté, revendication d'égalité dans l'accès aux techniques pour répondre à un désir d'enfant. Les aspects éthiques, eh bien, c'est une atteinte à la dignité de la femme qui est instrumentalisée et marchandisée, qu'évidemment, ça se fait avec de l'argent. Aucune femme riche ne se proposera pour être une mère porteuse. C'est également une atteinte à la dignité de l'enfant avec une marchandisation de l'enfant. Et pour l'enfant, il y a en plus à la naissance la violence de la rupture avec la mère, la femme gestatrice. Or, ça fait des dizaines d'années qu'on insiste sur l'importance des liens qui se tissent entre la femme enceinte et le fœtus. Donc là, il y a une rupture brutale de ces liens à la naissance. Et puis tout cela alimente bien sûr le grand business procréatif. Alors, dans le plan, nous en arrivons au grand troisième mot pour répondre à la question des fondements spécifiques des positions de l'Église catholique. L'Église catholique, là-dedans, cherche à discerner des enjeux d'humanité par le travail de la raison. Je m'appuie sur différents documents, en particulier donc septembre 2018, évêque de France, la dignité de la procréation, qui est sur la table là-bas. La dignité de la procréation. Septembre 2019, donc il y a trois semaines, ce petit livre des évêques de France, quel monde voulons-nous discerner les enjeux d'humanité? Et bien sûr, en arrière-fond de tout ça, il y a l'encyclique L'Évangile de la vie en 1995. Je pense que vous savez que la conférence des évêques de France dispose d'un groupe de réflexion bioéthique avec comme responsable Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes, responsable depuis maintenant plus de 10 ans de ce groupe de réflexion bioéthique de la conférence des évêques de France. Le travail qui est fait par Monseigneur Dornelas, les quelques évêques qui font partie de ce groupe, et les deux théologiens moralistes qui font partie de ce groupe, l'un jésuite et l'autre des Bernardins, ce travail est absolument remarquable, remarquable. De très grande qualité de réflexion et de ton. Il ne s'agit pas de lancer des slogans comme ça. Si je me réfère aux livres qui ont été publiés lors de la précédente révision des lois de bioéthique et qui sont toujours d'actualité, donc en 2009, toujours par ce groupe, vous voyez bioéthique, propos pour un dialogue. C'est les modalités, comment nous parlons dans le débat public, propos pour un dialogue. Et bioéthique, question pour un discernement. Comment parlons-nous dans le débat public? Nous posons des questions, nous éclairons les consciences pour un discernement. Donc, travail remarquable de Mgr Dornelas à chaque fois qu'il y a une révision des lois de bioéthique. Alors, j'en fais un peu la synthèse de tout ça pour dire qu'il y a trois enjeux d'humanité. Enjeu anthropologique, enjeu de la conception de la médecine, enjeu de la conception philosophique du droit. Donc, premier enjeu, l'enjeu anthropologique. Sur quelle anthropologie s'appuient nos documents? Eh bien, le premier point de cette anthropologie, c'est que tout être humain a une dignité et que cette dignité, elle est inhérente, elle est inaliénable. Tout être humain a une dignité parce qu'il appartient à la famille humaine. Cette dignité est également celle qui est proclamée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, évidemment, la foi chrétienne peut également fonder de façon très forte cette dignité humaine, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, et je crois que dans les situations de grande vulnérabilité, qui sont quand même les situations le plus souvent rencontrées dans les questions de bioéthique, je crois que la contemplation de l'Ecce Homo, voici l'homme, le voici l'homme s'adresse à une loque humaine. Or, c'est toujours Ecce Homo, voici l'homme. Voici l'homme qui a encore toute sa dignité d'homme, même s'il est réduit à une sorte de loque humaine. Alors, cette dignité, qui peut être fondée en raison, qui peut être fondée au niveau de la foi chrétienne, cette dignité implique qu'aucun être humain ne puisse jamais être instrumentalisé. Deuxième aspect de cette anthropologie, l'unité corps, âme, esprit. Respecter la dignité de la personne, c'est la respecter dans son unité corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit, là, c'est valable pour tout homme. La dimension spirituelle est une dimension commune à tout homme. La dimension spirituelle, c'est le fait que tout homme se pose la question du sens de l'existence. Donc, la personne ne se réduit pas à ses facultés intellectuelles, elle ne se réduit pas à sa volonté, ni, d'un autre côté, à sa dimension biologique. Et donc, il faut évaluer les conséquences de toute action sur toutes les dimensions de la personne, de toutes les personnes concernées, dimension physique, psychique, spirituelle. Nous n'avons pas un corps. Je n'ai pas un corps, je suis mon corps. Je n'ai pas dit à M. Bonneau, je vais venir ce soir et je vais apporter mon corps. Je n'ai pas dit ça. Si je viens, je suis mon corps. À l'encontre de cette anthropologie très unifiée, il y a aujourd'hui une anthropologie extrêmement dualiste. Dualiste, extrêmement dualiste, en particulier justement dans les techniques d'AMP et de GPA, où le corps finalement est considéré comme un objet. Le corps il y a une non-signification de la dimension biologique corporelle. Troisième aspect. Troisième aspect de cette anthropologie, c'est que nous sommes des êtres ontologiquement relationnels. La dimension relationnelle n'est pas quelque chose de surajouté. Au commencement est la relation. Même quand Dieu crée, il les crée à son image, il les crée homme et femme. Il y a un « je » et un « tu » en relation dans un « nous ». Par conséquent, nous ne sommes pas indépendants, nous sommes interdépendants, tous vulnérables. Cela implique une éthique du jamais l'un sans l'autre. une éthique de la fraternité, une éthique de l'hospitalité, une éthique de la responsabilité, responsabilité voulant dire répondre, répondre à autrui. Et dans cette éthique du jamais l'un sans l'autre, il est capital de ne pas ajouter de la souffrance à la souffrance. Le problème est qu'aujourd'hui, cette anthropologie relationnelle est en opposition avec une autre anthropologie très prégnante aujourd'hui, qui est une anthropologie de l'individualisme et de l'autonomie d'indépendance, avec l'absolutisation de la liberté individuelle. À tel point que, dans le rapport de M. Touraine, député de La République En Marche, médecin, franc-maçon, dans son rapport du mois de janvier dernier, il était bien précisé que l'autonomie d'indépendance est telle pour les demandeurs de PMA que, en contradiction flagrante, interdiction aux médecins de PMA de faire de l'objection de conscience. Non à l'objection de conscience des professionnels de santé pour la PMA pour toutes les femmes. Voilà. En fait, au nom de ma liberté, je ne peux pas imposer n'importe quoi à autrui. Et je ne peux pas imposer en particulier à un enfant une absence de père et une double filiation maternelle. Déni du réel. Quatrième dimension importante de cette anthropologie, notre dignité, corps, âme, esprit, notre dimension relationnelle inclut notre condition sexuée et donc le respect de la dignité de la procréation qui doit être un acte humain entre un homme et une femme. La négation de la différence sexuelle est une négation du réel. De plus, aujourd'hui, on est en train de dire que les femmes ne peuvent pas se passer d'enfants, mais que les enfants, eux, peuvent se passer de père. Où est la logique, encore une fois, et la cohérence? Où est la justice? Et autre point de notre anthropologie, c'est le respect de la dignité due aux embryons, enfin le respect de la dignité des embryons humains. Tous les embryons humains sont dignes de respect. Or, toutes les techniques d'assistance médicale à la procréation sont la porte ouverte à la sélection généralisée des individus, et maintenant pour des raisons non médicales. Ce qu'on appelle, et il n'y a pas que les cathos pour dire ça, le philosophe allemand Habermas le disait bien avant les cathos, en même temps, on favorise un eugénisme dit libéral, c'est-à-dire c'est un eugénisme individuel, il n'est pas imposé par l'État. Or, la sélection des personnes admises à prendre place dans notre société existe déjà pour des critères que l'on appelle médicaux. Là, je renvoie au dépistage prénatal généralisé de la trisomie 21. Dans le cadre des techniques qui nous occupent, il y a la sélection des caractéristiques, enfin il peut y avoir la sélection des caractéristiques que l'on veut pour l'enfant via la sélection des gamètes. On sélectionne les spermatozoïdes, on sélectionne les ovocytes et via la sélection des embryons humains. Je n'ai pas le temps de vous raconter une petite histoire. Je continue. Vous voulez la petite histoire?
Oui,
sauf que je vais déborder, hein. Alors, la petite histoire pour vous dire qu'il y a eu de la sélection, c'est que donc dans mon exercice longtemps ophtalmologiste pédiatrique hospitalier à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, je vois un jour dans ma salle d'attente une encore jeune femme blonde aux yeux bleus de 40 ans et elle avait une poussette dans laquelle il y avait deux petites filles blondes aux yeux bleus. J'avais à peine un an, il se trouve que c'était donc des jumelles nées prématurées. Or, il y a tout un suivi très particulier pour les enfants nés prématurément. Donc, j'examine les petites jumelles. Il y en a une qui n'avait aucun problème, l'autre qui avait un petit problème. Donc, je dis à la dame, Madame, est-ce que vous avez des problèmes ophtalmologiques? Connaître un petit peu les antécédents familiaux des enfants. Est-ce que vous avez des problèmes ophtalmologiques? Les enfants ont été faits avec un don d'ovocytes. D'accord? Alors, le papa, est-ce qu'il a des problèmes ophtalmo? Il n'y a pas de papa. Alors, je fais une mine très pleine d'empathie. Il lui est arrivé quelque chose ou il vous a laissé tomber avec les petites? Non, non. C'est un don de spermatozoïdes. Donc, ça n'a pas été fait en France, parce que cette technique-là est interdite. Ça a été fait en Belgique. C'est donc une femme seule qui est allée en Belgique pour avoir un don d'ovocytes, un don de spermatozoïdes. Je vous ai dit que la jeune femme, elle était blonde aux yeux bleus. Les deux petites sont blondes aux yeux bleus. Donc, vous voyez, on n'est pas dans les cas, enfin, dans des sélections graves, là, mais il y a bien sélection. Il est évident qu'on n'a pas donné n'importe quel ovocyte et n'importe quel spermatozoïde. Par ailleurs, si on en est à faire la sélection pour avoir les blondes aux yeux bleus, j'ose imaginer qu'il y a également eu un dépistage préimplantatoire de trisomie 21. Voilà, donc pour la petite histoire. Donc, en tous les cas, ça se passait en Belgique. En France, dans le Code civil, on a toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Maintenant, j'en viens à ce que dit l'Église catholique qui argumente en raison le respect dû à l'embryon humain en s'appuyant sur les connaissances scientifiques actuelles. Et ce que dit l'Église catholique, c'est que l'embryon humain, dès le stade de la fécondation, est engagé dans un processus continu de développement biologique qui se fait selon un programme bien défini, avec comme finalité d'aboutir à la naissance d'un enfant. Ce qui veut dire que il n'y a pas d'autre seuil d'entrée dans l'humanité que la fécondation. Vous voyez, là, on n'a pas besoin, enfin, c'est des connaissances scientifiques. Alors, on touche ici la fameuse question des statuts de l'embryon humain. Le débat donc sur le statut de l'embryon humain, question qui traverse les siècles, puisque déjà Aristote, moins 4e siècle avant Jésus-Christ, avait envisagé la question de savoir quand l'embryon humain avait une âme. En tous les cas, cette question traverse les siècles et elle est très confuse parce qu'on n'apporte pas suffisamment de soins à distinguer deux statuts, d'une part le statut philosophique et d'autre part le statut éthique. Le statut philosophique, ça veut dire c'est quoi un embryon? Est-ce qu'il a une âme? Aujourd'hui, on dit à partir de quand l'embryon est-il une personne humaine? Donc ça, c'est la question du statut philosophique. C'est quoi? C'est une personne? C'est pas une personne? L'autre statut, c'est la question du statut éthique, c'est-à-dire quel respect on doit à l'embryon humain. Alors, en ce qui concerne le statut philosophique, eh bien, il faut reconnaître que le magistère de l'Église catholique, qui pourtant en général sait beaucoup de choses, eh bien, il ne sait pas ce qu'il en est du statut philosophique de l'embryon humain. Et bon, je ne donne pas toutes les références, mais sur le plan philosophique, dans l'encyclique L'Évangile de la vie, on dit que le magistère ne s'est jamais expressément engagé sur des affirmations philosophiques concernant le statut de l'embryon humain. Donc, la fameuse question, quand l'embryon a-t-il une âme, est-ce qu'il est une personne humaine, etc., le magistère de l'Église catholique n'en sait rien. Par contre, il n'y a aucun doute sur la question du statut éthique de l'embryon humain. Et voilà l'affirmation principale. L'être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception. Et donc, dès ce moment, on doit lui reconnaître le droit inviolable de tout être humain innocent à la vie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc l'être humain doit être respecté et traité comme on traiterait une personne. On ne sait pas s'il est une personne, mais on doit le traiter comme. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que la phrase commence par l'être humain. On ne dit pas la personne humaine, on dit l'être humain. Il y a donc une distinction entre l'être humain et la personne humaine. C'est un être humain, oui, c'est un être humain. C'est quelque chose qui existe, c'est de la vie humaine. Sûr que ce n'est pas un embryon de chat, ça c'est sûr. Donc c'est un être humain. On ne sait pas si c'est une personne, mais on doit le traiter comme une personne. Très intéressant de remarquer que dans un article très important du Code civil, l'article 16, il y a exactement le même type de distinction. On parle de la personne et de l'être humain anténatal. Il n'y a pas le mot antinatal, mais quand il s'agit de la gestation, c'est l'être humain. On ne parle pas le Code civil comme l'Église catholique, ou l'Église catholique comme le Code civil, ne parle pas de personne pour l'être anténatal. C'est bon ? Alors, quels sont les arguments pour ce statut éthique ? Eh bien, l'argument que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'autre seuil d'entrée dans la vie humaine que la conception, c'est-à-dire la rencontre de l'ovocyte et du spermatozoïde, et qu'il faut laisser ouvert l'avenir de cet embryon parce qu'il sera un jour une personne humaine. Dans les textes d'Evangelium Vitae, Évangile de la vie, c'est bien au futur, il sera un jour une personne humaine. Premier argument. Deuxième argument, c'est le principe de précaution. On ne sait pas s'il est une personne, mais au cas où il serait une personne, il faut le respecter. Et le troisième argument, qui n'est pas dit dans les documents romains, mais qui est dit, enfin, que je traduis à ma façon, parce qu'il a un grand poids existentiel, troisième argument, nous sommes tous d'anciens embryons. Et voilà la photo de chacun de nous. Là on se ressemble tous, hein. On est vraiment... Non ? Bon, voilà, nous sommes tous d'anciens embryons. Autrement dit, ça c'est capital. Contrairement à ce que soutiennent certaines personnes, le respect dû à l'embryon humain dès sa conception ne demande pas d'affirmer qu'il est une personne ou qu'il a une âme dès sa conception. Le magistère dit « nous n'en savons rien ». Le débat reste ouvert. Vous avez le droit de penser que Dieu met une âme dans l'embryon humain dès la fécondation. Vous avez le droit de penser que Dieu met une âme dans l'embryon humain plus tard. Faites comme vous voulez. Mais par contre, évidemment, il n'y a aucune incertitude sur le statut éthique. C'est très important ça, parce que c'est la seule position véritablement protectrice de l'embryon humain. On peut s'accorder dans le débat public là-dessus. Alors, malgré le timing, vous ne pouvez pas m'enlever le plaisir de citer une théologienne protestante sur cette question-là. Théologienne protestante française, France Quéré, qui appelle elle aussi au respect de l'embryon humain. Donc je cite France Quéré, théologienne protestante. « Si petit encore et déjà rebelle, il ne se laisse pas maîtriser par nos catégories. Et ceux qui en disposent comme d'un matériau devraient se souvenir que cette émergence insaisissable de l'homme, dans le sein de sa mère ou dans le cours de l'évolution, avec un grand E, est un signe de sa grandeur. L'originalité de l'homme se manifeste déjà dans l'impuissance des philosophes, des biologistes, des théologiens à dire qui il est et quand il commence d'être. Cette modestie obligée dégage la première leçon de son respect. Nous ne savons pas ce qu'est un homme. Merci France Quéré, théologienne protestante. Je passe rapidement au deuxième enjeu, qui est celui de la conception de la médecine. Bon, ça, vous avez bien compris que la médecine prend en charge des pathologies et où elle a fait la prévention, mais que l'incapacité à procréer des personnes seules, des couples de même sexe, ne relève pas de la médecine. En plus de ça, cela voudrait dire considérer les médecins comme des prestataires de services et non plus comme des soignants. En plus, il faut redire que toutes les souffrances ne sont pas médicalisables et que le rôle de la médecine n'est pas de soulager toutes les souffrances. Et puis enfin, il y a évidemment un enjeu de solidarité nationale et un enjeu de finances. La médecine française, vous le savez, est déjà confrontée à des défis qu'elle a du mal à relever. Les moyens humains comme les moyens financiers sont limités. Il faudrait peut-être les concentrer prioritairement sur la réponse aux situations pathologiques. Je me permets de rappeler ici que faire des bébés de façon traditionnelle, c'est quand même l'un des rares domaines où le biologique ne coûte pas cher. Voilà, donc cet aspect de solidarité, de fraternité. Enfin, dernier point, une question de philosophie du droit, donc je vais être rapide aussi. La question qui se pose en matière de philosophie du droit, c'est que si on demande au droit d'encadrer des pratiques, au nom de quoi le fait-on? C'est-à-dire, quel est le fondement du droit? Eh bien, il y a deux options philosophiques pour le droit. Donc, la première est celle, évidemment, de monsieur Jean-Louis Touraine. Vous voyez qui c'est, hein, Jean-Louis Touraine? Non, pas suffisamment. Enfin, voilà. Donc, l'option de monsieur Jean-Louis Touraine, député de La République En Marche, médecin et franc-maçon, est l'option positiviste libérale, c'est-à-dire un droit où la liberté est première et où le droit se contente d'enregistrer et d'entériner les évolutions de la société. La deuxième option philosophique du droit, c'est l'option que l'on appelle personnaliste ou communautaire, qui est l'option de l'Église catholique, mais qui est d'abord l'option des grandes traditions, enfin qui est d'abord le patrimoine des grandes traditions juridiques de l'humanité. Cette option personnaliste, donc personnaliste c'est au sens large, hein, communautaire, dans cette option, il s'agit d'un droit où le respect de la dignité humaine est premier. Et donc, dans cette option personnaliste, le droit reflète les valeurs constitutives de l'humain telles qu'elles ont été, entre autres, énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc, protection de tous les éléments que nous avons mis en valeur dans l'anthropologie, la dignité de la personne humaine, l'unité de la personne humaine, ce qui veut dire son indisponibilité, son inviolabilité, sa non-patrimonialité. Quant à la question de l'égalité, hein, puisqu'il y aurait une revendication d'égalité pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, eh bien, l'égalité des droits concerne des personnes dans des situations identiques. Or, il n'y a pas de discrimination à reconnaître des droits différents pour des couples hétérosexuels et pour des couples homosexuels en matière d'accès à des techniques de procréation. Et ça, nous savons très bien que le droit précise les droits et les devoirs de façon différente selon la situation des personnes. Nous savons très bien qu'un adulte a le droit de voter, qu'un enfant de 10 ans n'a pas le droit de voter. Voilà. Parce que les différences ne sont pas obligatoirement des inégalités. Je conclue avec trois points. Premier point, pour renvoyer au discours d'ouverture de l'Assemblée plénière de Lourdes en novembre 2018 de Mgr Pontier, avec donc toute une partie consacrée à l'actuelle révision des lois de bioéthique et qui commence ainsi, enfin la partie consacrée à la bioéthique commence ainsi, on le voit, l'heure est grave. Je ne peux pas tout vous lire là, tout ici, mais ces quelques lignes sont synthétiques et disent vraiment tout ce qui est en jeu. Soit nous optons pour une société basée sur la dignité humaine qui s'impose à tous, et donc on interdit toute discrimination, toute atteinte à la dignité, soit nous optons vers une société, enfin nous allons vers une société ultra-libérale où les libertés individuelles sont considérées en premier lieu et on favorise le grand marché de la procréation. Donc dans ce discours, il y a un appel à la réflexion, au dialogue, à prendre du recul pour construire ensemble la fraternité qui va avec notre dignité. Il est fort probable que nous allons encore nous enfoncer dans une période un peu sombre de l'histoire de l'humanité à cause des conséquences anthropologiques désastreuses des liens qui se font entre la biomédecine et le business. Peut-être que dans quelques dizaines d'années, il y aura une renaissance. Alors, dans cette période un peu sombre, quelques mots de notre responsabilité de chrétien, catho-protestant orthodoxe. avec le commandement spécifiquement chrétien, aimer comme Jésus nous a aimés. Ça veut dire dialoguer avec tous en raison pour éclairer les consciences, prier, notamment pour nos parlementaires, vivre, pas seulement dire, vivre dans et pour la justice et la fraternité. Et je conclus avec quelques phrases d'une prière chrétienne qui, me semble-t-il, nous permet de continuer à avancer quand l'heure est grave. Et si vous voulez, nous pouvons lire ces quelques phrases ensemble, pour avoir ensemble le courage d'avancer. Nous ne savons pas ton mystère, amour infini, mais tu as un cœur, toi qui cherches le fils perdu. Et tu tiens contre toi cet enfant difficile qu'est le monde des humains. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour la clarté de cet exposé. On vous reconviendra. Alors, on va se séparer en petits groupes, hein, de 5-6 personnes environ. Alors, il peut y avoir 2-3 petits îlots ici. Vous pouvez prendre vos chaises et la grande salle qui est juste derrière cette cloison, peut-être faire aussi quelques groupes. Et il y a 2 salles complètement à l'autre bout du centre. Où il peut y avoir un ou deux groupes par salle. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est des groupes de 5-6. Essayez de vous mettre entre personnes qui ne se connaissent pas. D'accord ? Dans chaque groupe, un modérateur, on va essayer de faire en sorte que ce soit les membres de l'équipe qui se répartissent dans les groupes. Un secrétaire pour relever les réponses aux questions. Voilà, il ne s'agit pas de faire le débat, mais quelles sont les questions? Alors, les questions, qu'avez-vous appris de la position de l'Église catholique? On regarde l'exposé de Mme Nissen. Êtes-vous surpris par un point précis? Et est-ce que vous avez des questions supplémentaires, puisque Mme Nissen viendra avec M. Collange refaire la synthèse de tout ce qui a été dit à la dernière séance qui aura lieu
en mars.
Le 12 mars. On se retrouve ici à moins 4, si vous voulez, pour refaire une mise en commun. À chaque secrétaire, un papier avec les questions à me donner de façon à ce que je puisse synthétiser ensuite tout ce qui a été dit. Par les consorts.